à tous, soyez bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Pourquoi éprouvons-nous le besoin de dire des gros mots quand nous sommes au volant, dans la cour de récréation, entre amis ou en famille, quand la conversation s'échauffe un peu trop, ou contre nous-mêmes quand nous nous cognons le petit orteil contre un meuble? Pourquoi avons-nous besoin de sortir ces gros mots, ces mots tabous que l'on nous a appris à ne pas proférer dès notre plus jeune âge? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous les proférons? Comment en faire bon usage? Le gros mot, une arme verbale qui peut déboucher sur l'agression physique, sur l'humiliation de l'autre. Comment faire preuve d'humour et de créativité sans blesser l'autre à armes égales? Nous vous aiderons à enrichir votre répertoire. Nous procéderons également à l'étymologie de quelques jurons, une émission sous le haut patronage du mensuel Cerveau et Psycho, et avec les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine, chef du service actualité de Femme Actuelle.
Bonjour Ali.
Au programme.
Ah bah j'ai appris que c'était bon pour la santé, je suis ravie.
Bah vous allez vous lâcher alors.
Ah, complètement.
Bonjour Christophe André.
Bonjour monsieur Ali.
Il sera question évidemment de psychologie des gros mots. Hein.
Oui, oui, et puis alors bah, il y aura du beau monde. Hein. Il y aura Stendhal, Chamfort, Freud et Baudelaire et tout ça pour parler des gros mots. Merde alors.
N'hésitez pas à nous dire quels sont vos jurons préférés et dites-nous également comment vous vous défendez quand les gros mots, le gros mot devient une insulte qui vise à vous blesser, à vous rabaisser, à vous humilier. 01 45 24 7000 sans oublier de nous laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Mais toi, t'es vraiment con.
Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires?
Ça me va grave. Écoute, trou du cul, putain, merde, nom de Dieu, piège à con, saloperie, bordel. Alors, tu trouves que ça me va toujours mal ?
Extrait du Mépris de Godard. Bonjour Catherine Guénec.
Bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Delattre.
Bonjour Ali.
En duplex de France Bleu à Montpellier, vous êtes les auteurs d'un réjouissant livre, 200 gros mots pour enrichir votre répertoire, publié chez First. Bonjour Bernard Cercalini.
Bonjour.
Vous êtes un linguiste respecté, professeur de linguistique à l'Université de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont un Que sais-je consacré à la naissance du français. Et vous venez de publier chez Larousse, Chronique d'une langue française en résilience, comment la langue française a lutté pendant la pandémie de Covid-19. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue mensuelle Cerveau et Psycho, avec un papier consacré au pouvoir caché des jurons. Alors Catherine Guénec, Jean-Jacques Delattre, d'où vous vient ce goût prononcé pour les gros mots, pour les jurons ?
C'est une bonne question. Nous, on adore les mots, la langue française. Ce sont des petites friandises linguistiques réjouissantes.
Jean-Jacques Delattre.
On les aime. Même chose.
Oui, oui, pareil. On a travaillé ensemble sur ce livre et puis on a répertorié un certain nombre de jurons ou de gros mots. Voilà. Et on va essayer de répondre à toutes vos questions.
Bernard Cercalini, il existe une différence entre le gros mot, le juron, l'insulte
Oui,
du point de vue de la linguistique.
Oui, bien sûr. L'insulte, c'est une épithète inconvenante et qui discrimine. Le juron, c'est un blasphème au départ. Hein, donc, et le mot grossier, le gros mot, c'est un mot qui n'est pas de la norme, mais la norme peut changer avec le temps et les sociétés. Donc, il faut distinguer. Mais tout ça, cela relève de ce que j'appelle le carnaval de la langue.
Quelle est la place des gros mots dans la langue française ?
Fondamentale. Fondamentale, c'est-à-dire que les gros mots de tous les jours, comme merde, con, putain, viennent directement du latin. Bordel les a rejoints au Moyen-Âge, foutre également. Ouvrez le roman de Renard du XIIIe siècle, vous allez rougir. Hein.
Alors, il s'agit le plus souvent de mots tabous qui ont un lien avec le sexe, l'analité, la bestialité. Catherine Guénec.
Oui, oui, tout à fait. Et le domaine sexuel, qui est donc un domaine tabou par excellence, nous fournit un corpus très abondant. Hein. C'est 80% des mots grossiers. Hein.
Bernard Cercalini.
Oui, actuellement, c'est la sexualité. Enculé s'entend tous les jours. Si l'on prend l'histoire de la langue, qui est ma spécialité, on voit qu'au départ, je l'ai dit, il s'agit de blasphème. L'ancienne langue jurait par Dieu. Et je rappelle que le juron, c'est au départ un jurement. Mmh. Et jurer, en latin, jurare, c'est prendre les dieux à témoin de son affirmation. Ce n'est pas rien. on s'engage et on dit que les dieux sont prêts à nous foudroyer si nous mentons. Et donc, jurer, c'est très très grave. Et je m'étonne qu'un tribunal de la République, laïque, nous demande de jurer, de dire la vérité. Si cela m'arrive un jour, je promettrai, je ne prends pas les dieux à témoin dans une enceinte républicaine.
Christophe André. Et
d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que dans le parler québécois, qui est une forme finalement d'ancien français, on jure plus de cette façon que nous. Il y a le fameux tabernacle, etc.
Vous avez raison. On voit la place de l'Église catholique encore dans le Québec. Le Québec, d'abord, utilise le mot sacre, et puis jure par Christ, qui est Christ, sacristie, tabernacle, ainsi de suite. Nous sommes dans une société déchristianisée, nous avons remplacé Dieu par le sexe.
Et vous l'aimez d'ailleurs ce mot tabernacle, ce juron tabernacle?
Je l'adore, parce que d'abord tabernacle, il est vraiment québécois. Chris de sacristie, tabernacle de police montée.
Catherine Guénec, hein, on le voit, le gros mot, le juron témoigne d'une vitalité joyeuse et libératrice. Hein.
Oui, ça nous fait une langue très très vivante. C'est alors, jubilatoire, les gros mots.
C'est jubilatoire, hein, Sébastien Boller. Vous le montrez bien dans votre dossier dans Cerveau et Psycho. Hein.
C'est jubilatoire, c'est désinhibant, parce que ce qui se produit au niveau de notre cerveau, c'est surtout une levée d'inhibition, c'est-à-dire que toutes les parties du cerveau qui contrôlent en fait notre comportement, notre prise de parole en public, qui font qu'on s'exprime d'une façon à peu près policée, à un moment, s'éteignent un petit peu, ou le contrôle se relâche, et là, il y a des choses plus automatiques qui vont fouiller d'ailleurs dans le fonctionnement de ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, c'est des structures cérébrales plus archaïques, qui se défoule à ce moment-là, et il y a des effets physiologiques qui, effectivement, peuvent avoir plein de vertus soulageantes.
On va y revenir tout à l'heure. Alors, Bernard Cerchiglini, nous ne sommes pas censés prononcer ces gros mots, et ce, dès la prime enfance. On nous apprend très tôt à polisser notre langage, à faire preuve de politiquement correct, de linguistiquement correct.
Oui, mais par ailleurs, les enfants très jeunes ont ce plaisir jubilatoire, ce que j'appelle le carnaval de la langue. Regardez le pipi-caca qui apparaît vers les 3-4 ans, fonctionne ainsi. L'enfant est content de voir l'émoi des parents, il est content de rompre avec la norme. Tous les enfants disent pipi-caca, c'est normal.
Écoutons une archive de 1980.
Cocon, grosse canne, couillon, con, connasse,
dégueulasse.
Monitrice, espèce de vieille saucisse.
Merde.
Et un plus gros mot.
Crotte.
Encore plus gros.
Gros pépère.
Gros pépère.
Pépère poilu.
C'est plus gros, ça. Gros pépère poilu. Et encore plus gros.
Gros pépère poilu.
Quand on fait pipi au lit, on ne coupe pas des
zizis.
Pour en faire des spaghettis.
Poilu zizi.
Bernard Cerchiglini, je ne vous traiterai pas de comme il a dit le garçon, gros pépère.
Gros pépère. Hein.
Alors, les enfants aiment les gros mots, donc vous avez cité caca boudin. Ça vient d'où d'ailleurs, caca, Catherine Guénec, Jean-Jacques Delattre?
Du latin.
Oui, du latin cacaré.
Cacaré qui a donné chier.
Cacaré, oui. Oui, donc
oui. Et c'est un usage d'ailleurs qui est pas exclusivement enfantin. Hein. Caca prend volontiers le relais du mot merde, qui est très courant donc chez les adultes, chez les grandes personnes, qui peuvent donc se trouver dans le caca ou faire un caca nerveux, quoi. Le dire scatologique a encore de beaux jours devant lui. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Céline, qui savait dire beaucoup de gros mots, qui disait finalement que la merde avait de l'avenir, et vous verrez qu'un jour, on en fera un discours. Ce matin.
Enfoiré est aussi scatologique à la base, Catherine Guénec.
Oui.
Racontez-nous l'étymologie d'enfoiré.
Enfoiré.
Foire. C'est un paix liquide.
Bernard Cerchiglini.
Une foire est un paix liquide. Oui. Apollinaire dit quelque part, ta mère fit un foire est une naquille de...
Un paix foireux est une naquille de sa
voilà, corrigue. Ta mère naquille d'un foire est une... fit un foire est une naquille de ce foire.
Oui. Et le sens a changé grâce à l'humoriste Coluche au cours des années 80. Le mot enfoiré a perdu son sens scatologique initial.
Oui, oui, il a été largement repris et diffusé par Coluche, et ça devient une apostrophe quasi amicale, enfoiré. Mmh. Les enfoirés sont des gens solidaires, hein, qui volent au secours des plus démunis, avec les Restos du Cœur. Mmh.
Alors, les gros mots, on le voit, c'est avant tout de l'oralité, mais la littérature française regorge de gros mots. Hein. Vous avez cité le roman de Renard, Bernard Cerchiglini, mais Hugo chez Flaubert, Proust, Queneau, Pérec, Frédéric Dard, les gros mots sont très présents.
Oui, bien sûr, mais c'est un jeu avec le code, oui. Jeu avec la norme. Et donc, Queneau, dans Zazie, oui. en joue. Hugo parle de fiente pour le mot d'esprit. Oui. Parfois, ça prend un tour douloureux. Je pense aux insultes antisémites de Céline dans les pamphlets. Oui.
Quelle est la limite, d'ailleurs, entre la vitalité libératrice du gros mot, sa créativité, sa part d'humour, et puis le gros mot qui devient une insulte, qui rabaisse, qui humilie, évidemment l'insulte raciste, xénophobe, antisémite, homophobe, Christophe André.
La limite est très poreuse, évidemment, et elle ne tient pas tant au mot lui-même qu'à la personne qui les profère.
Au contexte.
La personne à qui on s'adresse, le contexte, l'environnement. Donc c'est pour ça que c'est toujours très très glissant, effectivement, de coincer certaines personnes qui disent bah quoi, tout le monde le dit, ou bah je voilà, ne le prends pas mal, parce que justement c'est des codes qui sont souvent invisibles et flous.
Sébastien Boller.
Ben, je crois qu'effectivement il y a plusieurs types de réactions qui peuvent faire suite à une injure. Il y a le côté affectueux, hein, c'est vrai, t'es vraiment au courant de toi dans le midi. Ouais. Mais de façon globale, quand même, il y a beaucoup d'expériences qui montrent que quand on vous fait lire des gros mots, ou quand on passe des enregistrements audio de gros mots à des volontaires dans un laboratoire, on voit quand même une réaction cérébrale bien précise qui voit s'allumer un noyau très profond du cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui génère beaucoup d'émotions, et souvent des émotions négatives, de peur, de colère, de douleur, et qui va communiquer avec un autre centre du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, et qui lui est plutôt responsable de la mémorisation. Donc ça explique ce qu'on voit souvent quand on fait les tests aussi, c'est que les gros mots, quand ils sont insérés dans un discours, provoquent une meilleure mémorisation du discours. Tout simplement à cause de ce jeu-là. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui que cette saloperie d'amygdale communique avec cet enfoiré d'hippocampe, vous en souviendrez mieux demain que tout ce que je viens de dire pendant 10 minutes. Voilà.
Catherine Guénèque, Jean-Jacques Delattre, sur cette limite poreuse entre le gros mot joyeux à la Michel Audiard ou à la Tonton Flingueur, et puis le gros mot qui devient une arme de destruction de l'autre, d'humiliation.
Oui, moi ce que je voulais aussi rajouter, c'est que l'injure, l'insulte, ce sont aussi des armes, effectivement, qui détournent très facilement les mots, parfois en apparence inoffensifs. Si je vous dis cruche, nouille, thon, morue, purge, boudin, ce sont... pas à vous directement. Bon, ce sont pas des gros mots, et pourtant ils peuvent trouver un usage insultant. Et finalement, tout peut se transformer en insulte. Et là, moi, je pense particulièrement aux insultes du capitaine Haddock. Hein. Par exemple, si noix de coco, anthropophage, projectile guidé, souris neurasthénique. Bon, ils sont assez inoffensifs, mais c'est vrai que balancer comme ça, ça devient des insultes.
Bernard Cerchiglini.
Oui, ce qui frappe, c'est que tout peut faire insulte. Il y a une syntaxe pour ça. Espèce de, X, et voilà.
Espèce de moule à gaufre.
Espèce de moule à gaufre. Et donc, tout peut faire insulte. Tout peut donner du plaisir au cerveau, dans le jubilatoire.
Vous êtes d'accord avec Churchill qui disait ceci, n'écoutez jamais ceux qui vous conseillent de répondre aux insultes par le mépris, il faut répondre à l'insulte par l'insulte, voire la gifle ou le coup de pied, on ne défend pas son honneur en s'asseyant dessus. Christophe André.
Oui, c'est une vision du monde comme une autre. Après,
Vous n'insultez pas quand on vous insulte ?
Non. Non,
qu'est-ce que vous faites, tiens, quand on vous dit un gros mot, enfin un peu insultant, quand vous êtes en scooter ou
Bah, c'est-à-dire, moi, ça, c'est les bagarres de rue comme ça, ça m'intéressait beaucoup quand j'étais jeune. Et puis, j'ai vu à la fois la vanité et les dangers que ça pouvait représenter. Quand quelqu'un vous insulte, c'est qu'il est en train de perdre le pouvoir. Hein. C'est toujours le bon vieux principe. Plus tu cries fort, plus c'est que tu as tort. Donc, je cherche à voir un petit peu comment asseoir mon pouvoir différemment qu'en répostant. Alors, ceci dit, je jure beaucoup, et ça m'est arrivé aussi d'insulter des gens, mais mon idée n'est pas le même que celui de Churchill, apparemment.
Je ne vous imagine pas en train d'insulter des gens, Christophe André. Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, que nous apprennent la recherche ou les interactions de notre cerveau, alors je reprends, Sébastien, vos propos, cette saloperie d'amygdale, cet enfoiré d'hippocampe, quant au sexe de la personne qui dit les gros mots. Est-ce qu'un homme et une femme ont les mêmes références ?
Bernard Sarfighini, qu'est-ce qu'on sait, ou Sébastien Boller ?
Non, je sais pas.
Non, intéressant. Oui. Intéressant. Y a-t-il une égalité homme-femme dans le juron ? Moi qui suis pour l'égalité parfaite des hommes et des femmes, ce que j'aime beaucoup, c'est con comme une bite.
C'est vrai. On te connaît l'étymologie du mot con.
Ceci dit,
et
sur
ça, c'est une belle formule.
Oui, sur les rapports hommes-femmes, moi, il me semble qu'il y a un temps où les femmes ne devaient pas jurer. Et le jurant était l'apanage des hommes. Et que parmi les multiples symptômes sociaux de la libération des femmes, il y a maintenant des femmes qui profèrent des gros mots à tire-larigot. Et un exemple, c'était dans Les Visiteurs, ce personnage-là que joue...
Jacouille
ouais. Non, pas Jacouille.
Valérie Lemercier.
Valérie Lemercier, qui dit, à certains moments, s'en peut dire « putain de merde !» en jouant son esprit.
Oui.
Et je trouve que ça fait partie aussi de la libération des femmes, de jurer, comme le font les hommes. Je ne sais pas forcément ce qu'il y a de plus chouette, mais c'est un symptôme.
On l'a eu au Québec.
Oui.
Les femmes se sont mises à jurer au Québec à l'époque de la Révolution tranquille. Ça a été un marqueur langagier de leur libération. Hein.
Ouais. Puis il y a la place de la mère, le NTM, pour ne pas le dire. Mmh. Pourquoi la mère, la pauvre ? Souvenez-vous de Zidane qui a perdu son sang-froid, on a perdu la Coupe du Monde à cause de l'insulte.
Moi je crois que c'est parce qu'on est passé de la mère de Dieu à la mère tout court, c'est évident. Mmh. C'est la maternité, le blasphème religieux a été remplacé par le blasphème social et la mère maintenant est au cœur de tous les jurons et de toutes les insultes.
Enculé
de ta mère, etc.
Il faut que ça fasse mal, donc on prend quelque chose de précieux.
Et corrélé à la dominance sociale, ça c'est des données qu'on a. C'est-à-dire que plus un individu est en position de dominance, plus statistiquement il a tendance à s'autoriser, à manier l'insulte et le juron. Donc étant donné les rôles sociaux aussi des hommes et des femmes au fil des décennies, il y a des rapports de dominance, et on verrait certainement une plus grande propension des hommes à jurer peut-être que les femmes.
Ouais. Et pour revenir aux femmes, un aspect dont nous n'avons pas encore parlé, c'est l'euphémisation du juron, qui a beaucoup fonctionné et qui était propre aux femmes. Jarny Coton...
Vous l'aimez celui-là, Jarny Coton.
Jarny
Coton,
vous
me l'avez donné avant de préparer l'émission.
Oui, je l'adore. Parce
qu'est-ce que ça veut dire, Jarny Coton ?
Alors, au départ, c'est Jarny Dieu, qui est tout de même « Je renie Dieu », un des jurons les plus violents. Et Henri IV l'aimait beaucoup et le pratiquait, au grand drame de son confesseur Coton, qui ne permettait pas à lui faire cesser de dire « Jarny Dieu ». Et donc le brave Coton lui a dit « Majesté, dites au moins « Je renie Coton ». D'où Jarny Coton, ça fait rire Henri IV, et tout le XVIIe siècle utilise Jarny Coton, mais surtout chez les dames. Il y a donc une euphémisation de la langue qui est une des formes de la préciosité. Par Morbleu, alors Morbleu c'est Alceste plutôt, mais il faudrait voir, faire une histoire de l'euphémisation du juron chez les dames.
Et réhabilitons donc Jarny Coton. Alors revenons à l'origine du monde, au con. L'un des gros mots les plus usités. Ça vient d'où, Catherine Guénèque, con ?
Alors... Con, je pense que tout le monde le sait, c'est un mot qui désigne à l'origine le sexe de la femme, on parlait de la femme,
cunus,
alors voilà, cunus, ça vient du latin, et c'est employé donc comme une insulte, on sait que ça désigne un abruti, quelqu'un de pénible, alors, il y a beaucoup de variantes avec con, hein, pauvre con, roi des cons, vieux con, connard, du con, petit coin sans i... Lors du con la joie. On a même trouvé avec Jean-Jacques Terrine de con.
C'est pas mal ça.
C'est un mot qui se décline à l'infini. C'est trois petites lettres pour un gros mot, et c'est un des plus utilisés et des plus populaires dans la langue française.
Et d'ailleurs, dans le Sud, il se fait plus amical. Il s'agit d'une vraie ponctuation, putain con.
Bien sûr, il y a une très belle chanson de Brassens là-dessus, qui s'étonne que cet objet si délicieux, dit-il, soit désigné par un mot vulgaire. Et on a du mal à comprendre pourquoi on est passé du sexe de la femme à mépris. Alors, est-ce que c'est de la misogynie? Sans doute. Et aussi une procédure de divirilisation. Finalement, tu es un homme, mais tu n'as pas d'organe masculin. Tu es au fond comme une femme. Tu es un con. Mais c'est intéressant sur l'ambivalence des jurons. Il faudrait y revenir aussi. Con peut être à la fois prodigieux. On a dans l'ancien français des éloges du con, bien sûr allemand. Et puis cette dévalorisation de tous les jours. Avec de nouveau, puisque la langue rebondit, le côté hypocoristique à Kong.
Et c'est vrai que l'adjectif, l'épithète change un peu le sens du mot con. C'est pas exactement la même chose quand je dis « Ah, mais t'es un grand con, toi Christophe », bon, c'est pas vrai. Hein. ou si je dis « sale con », petit con, gros con, ces épithètes changent quand même la saveur du mot con, Sébastien Boller.
Oui, non, mais là, c'est au linguiste qu'il faut demander. Là, dans le
petit est terrible. Oui. Petit salaud, petit con, c'est terrible. Ouais.
Et c'est vrai que connard aussi a une connotation de méchanceté.
Le connard, c'est pour moi un con que l'on méprise.
Oui, c'est vrai. et j'aime beaucoup cette phrase de Santonio dans Les cons qu'il a publiée en 1973. Frédéric Dard, traiter son prochain de con n'est pas un outrage, mais un diagnostic. C'est pas mal du tout. Allez, on va voir d'autres gros mots, juste après le disque. On s'intéressera notamment au mot foutriquer. Tiens, on va essayer de le réhabiliter, ce mot que j'aime bien, foutriquer. On écoute en attendant Georges Brassens, évidemment. Le temps ne fait rien à l'affaire.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduque ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Et 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduque ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Qu'est-ce que ça fait du bien, Georges Brassens? Le temps ne fait rien à l'affaire.
Grand bien vous fasse.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Sur France Inter.
10h31 et on s'intéresse aux gros mots avec la complicité de cerveau et psycho. Quels sont vos jurons, vos gros mots préférés? 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, n'hésitez pas à nous laisser une note vocale.
Ok, vas-y.
Joute-moi dessus. Hé,
dis donc, le roi de la glisse. Avec toutes les soirées jaunes que t'organises, t'as pas peur qu'on t'appelle le roi de la pisse?
Ouais! J'en ai ras le bol de tes boniments, je ne te crois pas, un point c'est tout. Alors, change de disque, ok? Merde!
vite. Chiat.
Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne.
T'as pas vu ton pif, hein?
Pouf, yas.
Oh putain, c'est chier, merde. Putain, c'est chier.
Pouf. La tenue des yeux, miam du cœur, miam du cœur.
Mais fais pas chier, putain. Oh
putain, mais merde, qui c'est? C'est bon, t'as fait chier, putain.
Putain, mais elle le traite comme une merde, c'est chier, putain.
La seule.
Putain, j'ai dit, enfin, putain.
On avait dit putain.
Oh la salope.
On avait dit merde là. On avait dit chier putain.
Oh la salope.
I have sampled every language. French is my favorite, fantastic language. Especially to curse with. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère, Lucie.
Oh, et puis tonnerre de Brest, Gros-Magnon, macrocéphale, ectoplasme.
Medley réjouissant signé Claire Destacan avec l'aide de Camille Poux-Jalaguet. Alors Catherine Guénec, Jean-Jacques Delattre, dans votre livre, j'ai consacré au gros mot, j'ai relevé foutriqué, que j'aime beaucoup, foutriqué. Ça vient d'où, Catherine Guénec?
Alors foutriqué, c'est finalement un mot un petit peu vintage, hein, on l'a un petit peu oublié, il est tombé un petit peu en désuétude, enfin on sait toujours ce que ça veut dire, hein, c'est, on peut dire une variante d'avorton, de branleur, de chur de mouche, de sous-merde.
Merci.
Impropre à rien. Ça ne vous est pas adressé, bien sûr.
Et c'est dérivé de la semence masculine, hein.
Ça vient du verbe foutre et du latin, bien sûr, toujours le latin, foutuere, donc c'est avoir des rapports sexuels avec une femme, bien sûr, donc c'est un petit de foutre, foutriquet. Mmh. Et c'est un mot qu'on repère dès la fin du XVIIIe siècle, mais alors il désigne une personne de petite taille, quelqu'un de malingre, de mal foutu.
Ah, ça me fait penser à quelqu'un, ça.
Quelques-uns. Le temps passe, et puis bien sûr la signification du foutriquet glisse, et foutriquet va devenir méprisant, et ça correspond un petit peu à l'insulte j'en foutre, finalement. Ça souligne le caractère minable, insignifiant de l'individu auquel vous adressez l'insulte. Et freluquet a un sens un sens à ses voisins, peut-être en moins cruel. Et foutriquet, on peut se souvenir aussi que c'était le surnom de quelqu'un de bien connu, Adolphe Thiers, qui était, pour parler que de son physique, sans grâce, c'était un tout petit malin, il faisait 1m55, foutriquet.
Ce bon vieux Adolphe Thiers. Oui. Question de Marie-Laure Zonshine, Femme Actuelle.
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Catherine Guénec. Foutriquet, jarnicoton, vous nous disiez tout à l'heure, Bernard Cerchilini. Pourquoi certains mots traversent les époques, restent, on les connaît encore, et d'autres, alors malotru, triple buse, que sais-je, jobastre, on imagine Rému en train de traiter, voilà, dans les pagnols, mais pourquoi certains restent, passent à nos enfants, sont aujourd'hui détournés, améliorés, que sais-je, et d'autres qui ont totalement disparu?
C'est très curieux, il y a un côté du vocabulaire des jurons à haute variation, qui se renouvelle rapidement, et puis d'un autre côté, les bons vieux jurons, comme dirait Brassens, merde, con, qui sont là depuis toujours et qui vont continuer. Alors, est-ce que les seconds sont liés peut-être à des choses profondes, les excréments, le sexe, sans doute, et ils sont comme les pierres des chemins, on les croisera toujours. Mais par ailleurs, il y a un renouvellement extraordinaire. Les insultes et les gros mots du capitaine Haddock ne se disent plus, sauf chez les tintonologues éminents.
Mais tiens, justement...
Mais moi, je regrette, par exemple, la disparition de verbe foutre.
Ah oui.
On vient de nous expliquer brillamment toute la série. On n'utilise plus le verbe foutre, sauf dans « je m'en fous ». Mais foutre au sens d'avoir une relation sexuelle ou le foutre pour le sperme, je l'entends moins. C'est vraiment dommage, parce que c'est un très beau mot ancien, magnifique. Il y a une jolie anecdote, si vous me permettez. Au XVIIIe siècle, une marquise allemande, très francophone, très francophile, lisait des petits romans. Et un jour, elle parle avec D'Alembert, elle lui dit « Mais monsieur D'Alembert, c'est très curieux, dans les petits romans, je lis. » Alors il l'a pris et il l'entreprit et il commença à la F point de suspension. Et madame, j'ai envie de vous F point de suspension. Je ne comprends pas. Et D'Alembert lui répond, oh madame, peu importe. Vous lisez F et vous passez outre.
C'est pas mal. C'est bien vu. Tiens, une auditrice nous écrit, depuis que notre fils ramène des gros mots de l'école ou répète les nôtres, on se lance dans des batailles créatives à coups de courgettes à roulettes, prout en croûte ou babouin baveux, Haddock et Brassens étant nos maîtres. C'est jubilatoire et ça permet d'oublier les gros mots plus vulgaires. Tiens, j'aimerais qu'on s'arrête sur un gros mot qui a perdu son sens très grossier au fil des siècles. Jean-Jacques Delattre, bougre. Bougre qui vient du latin bulgarus, qui veut donc dire bulgare. Quel est le sens premier de bougre ?
Homosexuel.
Ça, c'est un homosexuel, finalement. Les gens de l'Est étaient bulgares, oui. Voilà, les bulgares.
C'est une réputation.
Et donc, c'était synonyme, bougre, de débauché, de dépravé, de sodomite. Et aujourd'hui, bougre a perdu sa connotation sexuelle.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, c'est un pauvre... On peut dire aussi bougre, brave bougre, pauvre bougre aussi, un bougre d'imbécile. Voilà, oui, ça a quitté son sens sexuel.
Sauf peut-être au féminin. Bougresse, évoque une femme ardente en amour.
C'est vrai.
Une putain.
Comme d'habitude, je suis désolé, le féminin est péjoratif. Naturellement, sorcier, sorcière, cuisinier, cuisinière, et bougre, qui au départ veut dire le sodomite. On a brûlé des bougres au Moyen-Âge. A perdu son sens, brave bougre, pauvre bougre, bougre d'imbécile, alors que la bougresse... C'est vraiment c'est une salope, quoi. Ouais.
Et ce sexisme, on le retrouve, par exemple, un mot un professionnel... Et une professionnelle, qui veut dire prostituée.
Un coureur, une coureuse, là aussi. La langue n'est pas neutre, naturellement. Elle véhicule, malheureusement, les représentations que nous sommes données des femmes depuis des siècles et contre lesquelles il faut combattre.
Alors, pour l'auditrice qui vient de nous envoyer un courriel, je conseille, extrait du Capitaine Haddock, bougre d'amiral de bateau-lavoir, bougre d'extrait de crétin des Alpes, bougre de crème d'emplâtre à la graisse de hérisson. Ça, faut essayer de le replacer. Excellent. Bougre de crème d'emplâtre à la graisse de hérisson. Et nous accueillons Vanessa. Bonjour Vanessa, bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous appelez de Viroflay. J'espère qu'on ne vous choque pas trop avec tous ces gros mots, ces insultes.
C'est moi qui vais vous choquer.
Allez-y.
Une rude histoire. Hein. C'est à l'époque, mon fils avait 3 ans. C'était les fiançailles de mon petit frère. Donc, petit cocktail dans le jardin, très chic. Et mon fils de 3 ans trouve rien de mieux à faire que de dire à la future belle-mère de mon frère, vieille pute.
Oula,
je vous l'avais dit. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais je pense qu'il y a une question de pouvoir. Peut-être l'enfant, il aime bien gagner un peu de pouvoir, c'est ce que je viens de vous inviter tout à l'heure. Bon, peu importe. Bon, et après, on s'est dit, il faut vraiment agir, c'est pas possible. Donc, on a essayé de lui faire croire que le pire des gros mots de la Terre, c'était tulipe. Alors, ça a marché une semaine. Dès que quelqu'un disait tulipe, on faisait tout un cinéma pas possible. Bon, il a cru une semaine, voilà.
Ça a tenu une semaine. Merci pour votre témoignage. Vanessa, merci beaucoup. Claire nous dit « J'essaie d'éviter le mot con, qui signifie donc vagin à l'origine. Je préfère trou de balle, c'est moins sexiste. » Voilà. Merci Claire de ce mail. Tiens, Sébastien Boller, donc dans Cerveau et Psycho, la neurobiologiste et journaliste scientifique Anna Lorenzen nous rappelle que le langage ordurier détient un pouvoir considérable. On utilise des gros mots, notamment pour transmettre des émotions extrêmes, comme la colère ou la frustration.
Oui, il y a une véritable agression par le gros mot. Je crois que l'exemple du petit garçon qu'on vient d'entendre le montre, c'est que c'est une façon d'agresser autrement que physiquement. Il y avait une phrase de Freud que je trouvais très intéressante. C'est du Freud, il disait que la civilisation était née quand un homme a lancé une insulte au lieu de lancer une pierre. Et c'est ça aussi qui fait que le capitaine Haddock, il est sympa, c'est que lui, il en vient jamais aux mains, enfin très rarement. Il n'arrête pas de... Donc c'est très intéressant, ce dérivatif que constitue l'insulte. Il y a des mesures physiologiques aussi qui sont intéressantes, qui montrent que quand on insulte, on se met dans un état d'excitation qui est similaire à celle d'un stress au moment du combat. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation des ressources de l'organisme, du glucose, de la tension artérielle, et les performances physiques augmentent. Vous avez des tests où vous mettez des gens sur des vélos, vous leur demandez de pédaler, on mesure la performance en salle de gym, et ils doivent maintenir un niveau de performance physique le plus élevé possible. Et ceux qui ont le droit de jurer maintiennent un niveau de performance plus élevé, plus longtemps. Il y a des effets aussi sur la douleur. C'est-à-dire que si il y a des tests de douleur en laboratoire, vous devez garder la main dans un verre rempli de glaçons pendant le plus longtemps possible, ça fait très mal au bout d'un moment. Bah, ceux à qui on dit vous pouvez dire toutes les bordées d'azur que vous voulez tiennent en moyenne 40 secondes de plus. Donc il y a ce rôle galvanisant de préparation au combat, à l'agressivité et à la résistance à la douleur, ce qui est aussi observé dans les situations de combat réel, on voit que le seuil de douleur descend aussi. Donc il y a quelque chose qui est physiologique, qui est très ancien, qui est enraciné dans notre animalité. Et je crois que c'est ça qui se joue à chaque fois sur le pourquoi le juron signale une rupture de contrat social, c'est qu'on montre qu'il y a la part d'animalité, de physiologie brute qui revient. Et on pourra revenir sur les lésions cérébrales qui casse complètement la partie intellectuelle et langagière de l'homme, puisqu'il y avait le fameux patient de Broca, là, le patient qui s'appelait Tantan, parce qu'il ne pouvait plus dire que Tantan, parce que sa zone du langage évolué avait disparu, mais il pouvait encore dire « sacré putain de nom de Dieu ». Et c'est la seule chose qu'il pouvait dire, parce que ça vient des couches les plus profondes du cerveau.
Donc le gros mot, le juron, peut atténuer le stress et la douleur. C'est pour ça que quand je me tape le petit orteil contre un rebord de table ou d'un meuble, et que je jure à voix haute, ça atténue la sensation subjective de la douleur.
Oui, il y a un effet anesthésique, vraiment, qui est objectivé. On voit qu'on supporte des seuils de douleur bien plus élevés en jurant. Plus on jure, plus le seuil baisse. Et aussi, y compris la douleur sociale. Alors ça, c'est d'autres expériences. On peut créer une douleur sociale dans des manipulations en laboratoire, où vous créez des situations d'exclusion. Par exemple, vous créez des groupes de gens qui jouent ensemble, puis au bout d'un moment, il y en a un qui est exclu par un artifice informatique, et ça crée la douleur de l'exclusion. Si à ce moment-là, on peut jurer, on supporte beaucoup mieux l'isolement social.
Catherine Guénèque.
Oui.
Vous vouliez intervenir ?
Oui, je voulais intervenir. On parle de gros mots, d'agressivité, etc. Mais je voudrais dire aussi que le gros mot, ça peut aussi être joyeux, exprimer la surprise. Putain, con ! C'est pas agressif, finalement.
C'est vrai.
Toujours.
Et puis, il faut pas oublier qu'au volant, l'automobiliste n'hésite pas à déverser des bordées d'injures, plus ou moins imagées. Ça s'inscrit dans une sorte de théâtre social très ritualisé. Bernard Cerchiglini, même les personnes les plus polies se lâchent. Au volant. Et comme le disait très bien Michel Audiard, conduire à Paris, où on peut, dans une grande ville, c'est une question de vocabulaire.
Hein. Formule magnifique. Ce que vous dites est tout à fait passionnant, c'est-à-dire qu'on a besoin de jurer. C'est utile, c'est important, c'est nécessaire. Alors, en linguistique, on connaît l'exemple de à la guerre, sous un feu nourri, le lieutenant qui crie « Mais couchez-vous, bordel de merde !» Et il sauve ses hommes, ce faisant. Mais du coup, c'est nécessaire, mais du coup, c'est une rupture avec le social. Et ça s'articule avec le social. Quel est le social tabou à une époque donnée ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est le sexe ? Est-ce que c'est la politique ? Vous voyez, regardez par exemple actuellement le mot « race » qui apparaît dans beaucoup de jurons.
Ah, oui.
Hein, c'est intéressant.
Ah, oui.
Donc en fait, le juron est très profond, il est quasi biologique, il est au fond de la cognition, mais il joue ce que j'appelle le carnaval avec le social donné. Il y a une articulation passionnante.
C'est exactement
on est passé
ça.
De Dieu à la race, en quelque sorte. En 2000 ans.
Et on voit apparaître des jurons nouveaux dans le brassage des cultures. Moi, j'attendais par exemple des jeunes filles d'ailleurs, dans des quartiers de banlieue, beaucoup de mixité comme ça, où il y a des référents de différentes origines ethniques, religieuses, et une jeune fille qui dit, moi, le Coran, que je m'en bats les couilles.
C'est quand même assez drôle. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Christophe André.
Alors que j'étais jeune papa, donc il y a longtemps, en passant devant la chambre de ma deuxième fille, je l'entendis un jour proférer avec conviction des mots étranges. Poutaine, poutaine. Je m'approchais alors doucement de la porte entrouverte pour l'observer. Elle simulait avec ses poupées une scène de colère et faisait dire à l'une d'elles les fameux « putain » dont je compris vite qu'ils étaient la reprise de mes propres « putain, putain » qu'elle avait dû entendre lors d'une de mes séances de bricolage. D'abord culpabilisé de lui avoir appris ça, je me rassurais en pensant qu'elle en entendrait bien d'autres dans la cour de l'école. Et je songeais à ma propre fascination d'enfant pour les gros mots. Je pensais au gros dictionnaire des insultes caché dans la bibliothèque de mes parents, dans lequel je découvris une de mes favorites, « Le diable te crache au cul ». C'est issu d'un roman de Stendhal. C'était une époque où les gros mots étaient encore un peu sulfureux et où nul ne se vantait d'en prononcer, mais chacun savait qu'ils étaient inévitables, comme le souligne Chamfort. Il y a deux choses auxquelles il faut se faire, sous peine de trouver la vie insupportable. Les injures du temps et celles des hommes. Mais les esprits ont changé, et les gros mots sont aujourd'hui exprimés sans culpabilité, et même permis aux enfants.
Merde au cul, c'est un dégueulasse!
Mamie merdo, merde au
c'est un caca très spécial. M-R-D-O-C-U, c'est un copain peu banal. Mère, mère, dodo et cucu. Merde, merde, cul. Mon ami, merde, cul.
Merci, je vais l'avoir toute la journée dans la tête.
C'est merveilleux. Bah, c'était une très belle chanson du roi des papas qui passait en boucle dans notre voiture lors des départs en vacances. Eh oui, les gros mots sont aujourd'hui largement réhabilités. Tout le monde en dit. Ça fait sincère et spontané. Et pour celles et ceux qui s'en désolent, ça n'est pas prêt de s'arranger puisque la science, comme le soulignait Sébastien Boller à l'instant, en vante les bienfaits. Dire des gros mots quand on s'est fait mal, ça soulage la douleur. Cela nous console aussi de nos peines quand nous nous sentons incompris ou rejetés. Pire, certains pensent même que les jurons sont peut-être à l'origine de toute culture humaine, comme la citation de Freud évoquée tout à l'heure, le premier humain qui lança une injure au lieu d'une pierre fut au fondement de la civilisation. En tout cas, pour certains chercheurs, les jurons sont peut-être le chaînon manquant entre le cri animal et la parole humaine. Et puis, au coincé qui ferait la fine bouche devant les 10 jurons, vous pouvez toujours rappeler ceci. L'un des deux mots que nous prononçons le plus en dormant est putain. Et l'autre, c'est non. Voilà, dans notre sommeil, nous répétons toutes les nuits non, non, putain, putain. De quoi méditer sur la manière dont les humains traversent l'existence. Allez, pour terminer, je voudrais rendre hommage au pauvre Charles Baudelaire, devenu aphasique à la suite d'un AVC et qui, après avoir écrit des poèmes élaborés, ne pouvait plus prononcer en boucle qu'un seul mot, un gros mot. En vogue à son époque. Créneau, créneau, créneau. Grand poète Baudelaire. Alors,
vous faites
triste,
bien Baudelaire. Hein, wow.
Merci. C'est triste, n'est-ce pas? Mais comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, profitons de la vie, les amis. Créneau de merde.
Et sachez que votre putain, proféré par votre petite fille, est né au XIIe siècle. Je parle sous le contrôle de Bernard Cerchiglini. Vient du latin putidus.
Oui, c'est ce qui sent mauvais. C'est un mot de la famille de putois. La pute, c'est le même mot. Hein, pute au sujet et putain à l'objet. Donc la pute est dans la rue, je vois la putain, c'est ce qui sent mauvais, famille de putois, voilà.
Et tiens, un message d'Hélène sur notre page Facebook qui nous conseille une page Instagram très utile pour jurer de manière inclusive. Ça s'appelle « C'est quoi cette insulte ?» et l'autrice explore les insultes pour en extirper le contenu sexiste, homophobe, validiste, etc. Bon, en tout cas, excellent. Merci beaucoup Christophe André, vous pouvez podcaster, partager sa chronique sur l'appli France Inter. Allez, dites-nous quels sont vos jurons et gros mots préférés. Vous avez le droit de les dire, hein, une fois dans l'année, là, cette saison, hein, faut en profiter, hein. Bon, dans cette émission 01 45 24 7000, sans oublier la note vocale sur l'appli France Inter. Et on écoute Michel qui interprète FYO.
Discover who the glare you ask, where my
tout cas, notre technicien Kevin Pelou aime beaucoup ça. Il danse en régie. Michel qui vient d'interpréter FYO.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
10h52, on s'intéresse aux gros mots, aux jurons, avec la complicité de Cerveau et Psycho. Victorien Thomas a promené son micro dans les rues de Paris pour savoir quels étaient vos gros mots préférés.
Bitch, couillon,
gros débile,
bitch.
Moi c'est connard. Moi mon gros mot favori c'est... Attends Sarah, tu peux t'éloigner chérie s'il te plaît.
Nous avons appris à nos enfants à ne dire des gros mots qu'au cabinet. Quand ils en avaient envie, on a le droit. Quand on a envie, on va se défouler.
Putain, dans la bagarre.
Moula gaufre et bachibouzouk.
Fils de pute.
Et avec les autres, on cherche des mots comme ceux du capitaine Haddock ou bien espèce de chétif pécor ou des choses comme ça, voilà.
Un bordel de merde.
Moi c'est assez soft, je dirais que c'est plutôt oh merde que je dis.
Pour tout pour rien, hein. Y a pas de situation particulière.
Quand au bureau, j'ai un problème et que j'avance pas, donc ça sort tout seul, souvent.
Ah putain, quand.
C'est plutôt naturel, les gros mots, chez moi.
Oh, c'est quand c'est moi qui ai fait une connerie.
Un truc qui m'énerve, c'est quand on me dit « t'es con », quoi. Ça peut me faire... c'est horrible, en fait. Ça me saoule.
En voiture ?
Ah, j'allais dire quand tu conduis.
En voiture ou en moto ?
Moi, c'est connard.
Couillon ?
Chauffard.
Chauffard ?
Oui, ça me fait rigoler. En fait, je m'énerve... facilement, donc quelque part, quelles que soient les insultes, je me dis ça rentre là, ça sort là, si ça lui fait du bien, bah tant mieux.
Propos recueillis par Victorien Thomas dans les rues de Paris. Tiens, autour de la table, quels sont vos gros mots préférés, Bernard Cerchiglini, honorable linguiste à l'Université de Paris? Merci. Il y en a un que je partage avec vous.
J'aime bien Jarnicoton.
Oui,
celui-là,
je ne connaissais pas avant de faire cette émission, mais zut.
Alors, j'aime
pourquoi
beaucoup
vous aimez Zut,
parce que j'aime Zut. Parce que Zut est une énigme. Et Zut est apparu au début du 19e siècle et on n'en connaît pas l'origine. C'est très étrange. Souvent, c'est attesté par Zut et Flûte. Ouais. Donc, certains disent que c'est le Hut des musiciens avec un Z. Il n'y a pas d'explication. La mienne, c'est que le Z initial en français est un mot insultant ou grossier, puisque le Z, on le retrouve dans, excusez-moi, Zod, Zob, Zizi, Zigounier, Zezette, ainsi de suite. Donc peut-être que le Zut, c'est un Hut un petit peu sexuel, mais en tous les cas, ce Zut que l'on dit tous les jours est une énigme linguistique. D'ailleurs, je fais un appel à la radio, trouvez l'origine de Zut. Zut,
Zut,
Zut, je ne connais pas l'origine de Zut.
Catherine Guénec, votre gros mot préféré?
Alors, moi, les gros mots préférés, je vais vous en citer quelques-uns, qui sont très anciens, c'est même plus vintage, c'est puisé dans la littérature poissarde, qui avait souvent de très très longs gros mots, comme par exemple gueule d'empeigne garnie de clous de girofle enchâssée dans du pain d'épices, qui voulait dire sale gueule, hein, tout simplement, ou alors cœur de citrouille fracassé dans la neige, qui paraît joli, comme ça, mignon, c'est presque un haïku, sauf quand on a le décodage, cœur, ben c'est le fameux con, et de neige dans la neige, ça voulait dire de rien, de merde. Mmh. Alors il y a aussi graines de couille, élixir des troncs, pisse verglas dans la canicule, lancé de pisse froid ou pisse vinaigre, avaleur des troncs crus, j'aime bien. Oula. Aussi. Gueule à prendre des écrans au vol, jockey de putain, c'est-à-dire un cavalier sur monture tarifée, et puis un petit gros mot qu'on pourrait traduire aujourd'hui par petite bite, qui est finalement élégamment dit à l'époque, c'est membre abrégé de la galanterie. Voilà.
Christophe André.
Moi, c'est mince et punaise, juste
oh,
parce
mignon.
Que...
Oh, non, comme tout.
Elle ne m'admirait pas, parce qu'en général, quand j'ai envie de dire merde, je transforme en mince et putain, je transforme en punaise. C'est une habitude prise du temps où j'étais papa, effectivement.
Marie Dorsenchat.
Le ça me rappelle le mercredi, vous souvenez pas les profs qui disent ah mercredi.
Absolument.
Bon, moi je reste basique, merde, putain, et le combo putain de merde.
Ah bah oui, bravo.
Très efficace.
Jean-Jacques Delattre.
Ah, moi j'ai choisi des mots du midi. J'aime bien cagole. Et avec son opposé cajot. Là aussi on s'adresse aux femmes.
C'est sympa.
J'aime bien l'opposé aussi chez l'homme qui est kéké. Ça, c'est bien.
Un kéké, c'est quelqu'un qui se vante un petit peu, hein, c'est ça?
Bien sûr, bien sûr. Ouais. J'aime bien salope. Ça, ça se dit aussi à toutes les sauces. Hein, on l'a dans le film de Lautner, là, les tontons flingueurs. Touche pas au Grisby, salope. Oui, voilà. Donc,
Sébastien Boller. Bon. Sébastien Boller.
Alors, moi, j'en ai. C'est deux situations. C'est soit quand j'insulte, mais c'est très rare. Ouais. Mais quand j'insulte et que c'est de la violence, c'est toujours con. Ouais. Mais con violent, parce que c'est condensé, c'est très violent. Ouais. Et sinon, c'est quand on se fait mal ou que je te laisse tomber un truc par terre. Et là, ce qui est important, c'est que ça dure. Donc, c'est putain de bordel de merde de chier. Oui.
C'est l'enchassement qui est formidable. Ça,
et moi, quand, dans cette deuxième situation, quand je me cogne le petit bout de doigt de pied, le fameux petit doigt de pied contre un meuble, quand je fais tomber quelque chose, c'est merde, merde, merde. Ah ouais, je sais pas pourquoi. C'est mystérieux. Faudrait que je m'allonge sur le divan de Christophe André. Non, oui, j'ai fait de l'espagnol seconde langue au collège.
Les jurons n'exercent leur effet plein et au niveau émotionnel que dans la langue maternelle.
Je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est un mystère. Tiens, on termine avec...
Vous jurez en espagnol, c'est très curieux.
C'est très curieux. Jean-Michel, sur notre page Facebook, nous dit « Dire des gros mots me procure un vrai plaisir. J'ai l'impression que cela a sur moi un côté exutoire. Je ne pense pas être violent physiquement quand je suis en colère, énervé. En revanche, je jure sans aucune retenue, j'adore jurer en voiture. L'avantage, c'est que cela n'a aucune conséquence directe. On n'agresse personne et on jure que pour soi. Cela fait énormément de bien. »
On peut insulter son GPS aussi, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui font ça.
Sur les vertus d'exutoire, hein, c'est...
Hein, ah bah, il vaut mieux se défouler comme ça quand
on se croit seul en voiture, peut-être, c'est pour ça. D'ailleurs, on se gratte le nez, c'est inconvenant.
Exactement. Merci à tous. Merci Catherine Guénec et Jean-Jacques Delattre. 200 gros mots pour enrichir votre répertoire, c'est publié chez First. Merci aux équipes de France Bleu à Montpellier. Bernard Cerchiglini, je cite votre dernier livre, Chronique d'une langue française en résilience, comment la langue française a lutté pendant la pandémie de Covid-19, et c'est publié chez Larousse. Et vous reviendrez régulièrement dans cette émission tout au long de la saison, Bernard Cerchiglini,
volontiers,
pour parler de langue française. Merci Sébastien Boller. On peut lire le tout dernier papier consacré aux gros mots dans le numéro de septembre de Cerveau et Psycho, encore en kiosque, peut-être aujourd'hui, jusqu'à demain.
Non, oh, il doit rester un ou deux jours. Non, on va guetter le suivant.
Et merci à Marie-Laure et Christophe, évidemment. Demain, on s'intéresse au sixième sens chez les animaux.